Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je vais chercher l'or, sire.
Quoi ? Tout l'or de Kaamelott ? Non mais vous foutez de moi, non ?
Mais quand a-t-il la demande de l'or, on lui donne. C'est pas le moment de jouer l'épingre.
Attendez, vous vous rendez compte de la somme que ça représente ?
C'est pas faux, comme dirait Perceval, car depuis quelque temps, l'or s'emballe presque autant que le cacao. Il a atteint des sommets, à plus de 2 400 $ l'once mi-avril, et depuis son point bas d'octobre dernier, le cours du métal précieux a bondi de 35%. Il a plus que doublé depuis août 2018. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Amazon Music et Spotify. Attention, le 23 juin prochain, vous ne pourrez plus écouter La Story sur Google Podcasts. N'oubliez pas d'exporter votre abonnement sur les autres plateformes.
On va parler d'or et non pas d'argent ce matin avec Nicolas. Record historique pour l'or. L'once a franchi hier 2 150 $.
C'est ça, 31 grammes d'or, oui.
Ça commence à faire cher le gramme. Le caviar et la truffe peuvent aller se rhabiller. Et depuis ce plateau sur BFM TV en décembre, l'or a continué son ascension. Il vaut aujourd'hui autour de 2 300 $ l'once. L'or végétait pourtant depuis des lustres. Dans les années 2000, il peinait ainsi à passer la barre des 500 $. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi celle qu'on appelle la relique barbare s'envole-t-elle ? Et est-ce durable ? Pour le savoir, je suis allé piocher les réponses du côté du service marché. Bonjour Étienne Goetz.
Bonjour Pierrick.
Spécialiste des matières premières au service marché des Échos. Pour trouver de l'or, il faut creuser. Mais là, les cours ne creusent pas. Ils grimpent même à des niveaux jamais vus.
Chaque jour ou presque, l'once d'or établit un nouveau record historique. Depuis le début de l'année, le métal jaune progresse d'environ 12-13%. Et le dernier record en date, il est du 19 avril, où l'once a clôturé à 2 391,93 $.
C'est précis.
C'est très précis, mais en séance, on est passé souvent au-dessus de cette barre des 2 400 $. Et pour vous donner une idée quand même, ces niveaux sont extrêmement élevés. C'est pas simplement un record qui bat légèrement un précédent record. Dans les années 60, l'once d'or, c'était 35 $. Après, on est monté plutôt à 850 $ dans le sillage des chocs pétroliers à la fin des années 70, début des années 80. C'est un peu redescendu, c'est remonté. En 2005, on est passé à 1 000 $ l'once. En 2008, on est un peu monté, ça a un peu baissé. Au moment de la crise des dettes souveraines en Europe, autour de 2011, on s'est approché des 1 900 $, et dans le sillage du Covid, on était monté à 2 000 $, ce qui paraissait déjà complètement hallucinant. Et donc là, on est autour de 2 400 $, et c'est chaque jour ou presque, dès que ça remonte un petit peu, il y a un nouveau record historique.
Il y a plusieurs explications à ça. La première, elle est connue, elle vient souvent d'ailleurs en premier dans l'esprit des auditeurs de La Story aussi, j'imagine, c'est l'aspect valeur-refuge de l'or.
C'est un invariant des marchés financiers qui veut que quand on entend le bruit des bottes, en général, l'or monte. Et en ce moment, ça ne vous a sans doute pas échappé, mais le bruit des bottes est très fort et on en entend un peu partout dans le monde. On a bien sûr le Moyen-Orient, avec le conflit entre Israël et le Hamas, et plus précisément la crainte que ce conflit se généralise à la région et que l'Iran entre en guerre avec tous ses voisins. Et d'ailleurs, le dernier record historique dont je vous ai parlé le 19 avril, c'était le vendredi 19 avril, juste avant la riposte de Téhéran sur Israël. Et puis, au-delà du Moyen-Orient, il y a la guerre en Ukraine qui s'enlise, il y a bien sûr les tensions entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan, et puis dans ce dossier, la possibilité que Trump soit élu en novembre prochain ajoute un certain degré d'incertitude. Donc la géopolitique, elle est franchement agitée en ce moment dans le monde et ça contribue à soutenir les prix de l'or.
L'or, valeur refuge donc. Autre explication très importante en ce moment, l'or est aussi sensible, alors vous allez expliquer ça, à la politique des taux d'intérêt des banques centrales. Pour quelle raison ?
Parce que l'or n'est pas la seule valeur refuge des investisseurs. En fait, l'or est en concurrence avec d'autres valeurs refuge, le franc suisse, le dollar, mais surtout et avant tout, la dette américaine. Un investisseur qui cherche un placement sûr et liquide, il regarde d'abord la dette américaine, combien ça me rapporte, parce que c'est jugé très sûr, combien ça me rapporte, et puis il regarde les prix de l'or, les perspectives des prix de l'or. Et quand il regarde la dette américaine, il regarde surtout le taux réel, c'est-à-dire le rendement affiché auquel on retire l'inflation. Donc par exemple, la dette américaine rapporte 3%, l'inflation est à 2%, le taux réel c'est 1%. Et si le taux réel a tendance à baisser, voire à passer en négatif, comme ça a été le cas dans le sillage du Covid, et c'est ce qui a propulsé l'once d'or à plus de 2 000 $. Si ça baisse ou si ça passe en négatif, et ben l'investisseur il se dit « Ah, je vais acheter un peu d'or ». Et donc ça soutient les cours de l'or. Et alors actuellement, la Fed a augmenté ses taux très fort, ils sont à plus de 4%, et le marché se demande quand est-ce que la Fed va baisser ses taux. Et donc la perspective d'une baisse des taux alimente la hausse des cours de l'or, puisque les investisseurs se disent « Ah bah si les taux directeurs de la Fed baissent, les taux réels vont baisser, et donc j'ai peut-être intérêt à acheter de l'or ». Et puis deuxième explication de la politique monétaire, c'est que quand la Fed baisse ses taux, le dollar a tendance lui aussi à baisser. Et donc ça, quand le dollar se déprécie, cette valeur refuge se déprécie aussi aux yeux des investisseurs. Et puis pour tous les investisseurs dans le reste du monde qui ne sont pas américains, eh ben c'est du pouvoir d'achat en plus, on peut acheter un peu plus d'or. Et donc ça favorise la demande.
Aussi un élément important que vous n'avez, je crois, pas signalé, c'est que finalement l'or ne verse pas de taux d'intérêt, lui.
Non, ni intérêt, ni dividende. C'est pour ça que les investisseurs achètent de l'or et placent leur argent dans l'or quand l'environnement de marché macroéconomique est favorable, c'est-à-dire quand les taux d'intérêt réels sont faibles, voire négatifs. Parce que si vous avez un taux d'intérêt réel négatif, vous êtes sûr de perdre de l'argent en achetant une dette américaine, alors que si vous achetez de l'or, eh ben le prix va monter. Et puis vous savez qu'il y a un effet moutonnier sur les marchés financiers, qu'il y en a d'autres qui vont acheter de l'or, que donc les prix vont monter. Et puis l'or est hyper liquide, hein, ça se vend immédiatement sur les marchés.
Oui, les cours de l'or dépendent aussi de la demande, hein, ça vous le dites. Il y a les particuliers, les investisseurs, les industriels aussi, on l'ignore peut-être un peu, qui achètent de l'or. La tendance de ce point de vue est-elle porteuse ? Que dit le rapport publié ce mardi par le Conseil mondial de l'or ?
2023 avait été une année record, 2022 avait été une année exceptionnelle. Alors la demande en or ne s'effondre pas, mais elle semble un peu marquer le pas, puisque selon les données du Conseil mondial de l'or publiées en début de semaine, on a un infléchissement de 5% par rapport au premier trimestre 2023 si on exclut les transactions de gré à gré. Donc c'est un marché très opaque sur lequel on a peu d'informations. Si on les inclut, ces transactions-là, la demande progresse légèrement. Donc on va dire que globalement, ça marque le pas. Il n'y a plus la même frénésie qu'on a pu observer les années auparavant. Et la principale raison, c'est les prix élevés. Quand les prix sont à 2 300-2 400 $, beaucoup d'Indiens et de Chinois qui peut-être lèvent le pied sur les achats, notamment dans le segment de la bijouterie.
Mais pourquoi vous parlez d'eux, justement, des Chinois et des Indiens ? Ce sont des gros acheteurs d'or ?
C'est les deux principaux marchés après les États-Unis. Et puis notamment, ce qu'on a vu, c'est que les Chinois achètent beaucoup d'or en ce moment. C'est un facteur de demande important. Malgré les prix forts, hein, ils continuent quand même d'en acheter beaucoup. Parce que chez eux, il y a une crise de l'immobilier et la bourse chute mois après mois. Donc ils en ont peut-être assez de perdre de l'argent sur ces deux classes d'actifs et ils vont placer quelques économies dans l'or. En revanche, du côté indien, où il y a une tradition de bijouterie et d'achat lors des festivals de fin d'année.
Et notamment la saison des mariages. Hein.
Voilà, et en Inde, là, les prix ont joué, ont eu un effet conséquent sur la demande en or.
Il n'y a pas que l'Inde, hein, vous disiez, la Chine est également un haut lieu de la demande d'or. Il y a un chiffre hein, d'ailleurs qui est donné par le Conseil mondial de l'or, 280 tonnes, c'est le montant des achats de pièces de lingots et de de fonds qui ont été achetés par les Chinois l'an dernier. Mais il y a un autre type d'acteur dont on n'a pas encore parlé, Étienne, et qui pèse de plus en plus sur les cours, ce sont les banques centrales.
Depuis une quinzaine d'années, les banques centrales achètent vraiment beaucoup d'or. Elles ont été, dans les années 90 et au début des années 2000, vendeuses d'or. Elles ont diminué leurs réserves. Mais depuis la crise financière de 2008, on observe vraiment un phénomène récurrent. Chaque année, entre 400, 500, 600 tonnes d'or sont achetées par des banques centrales. Et 2022 et 2023 ont été à ce titre particulièrement exceptionnels, puisque ces deux années, elles ont acheté plus de 1000 tonnes d'or.
C'est énorme, hein ?
C'est énorme et ça n'a jamais été vu depuis 1900...
Vous n'étiez pas né.
Non, mais je crois qu'il y avait. Ça n'a pas été vu depuis la fin de l'étalon or.
Et vous le disiez, hein, les banques ont été longtemps structurellement vendeuses d'or. J'ai regardé un graphique. C'était le cas entre 1985 et 2010. Hein, tous les ans, elles vendaient de l'or, plus d'or qu'elles n'en achetaient. Pourquoi est-ce qu'elles achètent aujourd'hui autant d'or alors que finalement, il y a quelques années, elles ne pensaient qu'à une chose, finalement, s'en débarrasser?
Alors, toutes les banques centrales ne sont pas acheteuses. Dans les pays développés, en dehors de quelques exceptions, quelques années, elles achètent très peu d'or, c'est plutôt stable. Les achats d'or, c'est avant tout le fait des banques centrales de pays émergents. La Chine, la Turquie, les Philippines, le Qatar, l'Inde. Toutes ces banques centrales ont une tendance à augmenter leurs réserves. Pourquoi ? La première raison, c'est que elles avaient des réserves moins développées, moins importantes que la France, l'Italie, l'Allemagne ou les États-Unis. Et l'or est une valeur refuge, y compris pour les banques centrales. Et partant de crise, le métal précieux affiche de bonnes performances. Et donc, en bon gestionnaire, les banques centrales achètent de l'or.
C'est important pour une banque centrale aussi de montrer qu'elle a des réserves, elle aussi. C'est un signe, là aussi, envoyé aux investisseurs ?
C'est pour rassurer les investisseurs internationaux et ça fait partie des outils d'une banque centrale pour piloter sa politique monétaire et stabiliser sa monnaie, sa devise, sa dette. C'est important, oui, pour une banque centrale. Et les banques centrales émergentes avaient dans leurs outils, dans leurs réserves, beaucoup de dollars, beaucoup de dettes américaines. Et elles ont eu tendance, et c'est une tendance lourde, là, ces dernières années, de vouloir dédollariser leurs réserves, de moins dépendre du billet vert pour la stabilité de leurs réserves. Et puis, peut-être qu'il y a aussi une légère perte de confiance à l'égard du billet vert, quand on voit les montants astronomiques de dettes et de déficits aux États-Unis. Et quand on le demande aussi aux banques centrales, pourquoi est-ce que vous achetez de l'or, pourquoi est-ce que vous envisagez de continuer à en acheter, elles disent ah ouais, mais les taux, on pense que les taux vont rester bas encore longtemps. Donc les instituts monétaires qui déterminent les taux directeurs pensent que les taux directeurs vont rester bas et que ce sera donc profitable à l'or. Donc elles achètent de l'or. Et puis enfin, la dernière raison, c'est que l'or n'est la dette de personne. C'est un actif qui se suffit par lui-même. Il n'y a pas d'économie qui est adossée. L'or ne peut pas faire faillite. Donc il n'y a aucun risque de contrepartie. Et c'est là un argument de taille pour certaines banques centrales.
Plus de 1000 tonnes d'or achetées par les banques centrales du jamais vu. J'ai lu dans un de vos articles à retrouver sur leséchos.fr dans la rubrique marché que la Banque Nationale de Pologne avait été le deuxième plus gros acheteur d'or en 2023, 130 tonnes d'or. Alors, deux fois moins finalement que tous les particuliers chinois qui ont investi l'an dernier dans ce qu'on appelle la relique barbare. Il y a aussi un cas particulier qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la Russie.
Oui, la Russie achète de l'or, en tout cas a envie d'augmenter ses réserves en or. C'est lié à ce que je disais juste avant, c'est que l'or n'est la dette de personne, il n'y a aucun risque de contrepartie, il se suffit à lui-même. Et on n'a aucune prise sur l'or. Les États-Unis peuvent décider de prendre des sanctions sur le dollar qui est détenu par la Banque centrale de Russie.
Et ils ne s'en sont pas privés.
Ils ne s'en sont pas privés. Dans le sillage de l'invasion en Ukraine, les Occidentaux ont mis plein de sanctions sur la Russie, et y compris sur les actifs et les réserves de la Banque centrale de Russie. Et quand la Banque centrale de Russie, elle peut maintenant utiliser ses roubles, son or, peut-être les yuans qu'elle a dans ses réserves, mais alors le dollar et les euros, c'est fini. Donc c'est pour ça aussi que la Russie a cherché un peu à augmenter ses réserves. réserve en or, c'est pour se dédollariser et donc se prémunir et avoir une petite poche de sécurité vis-à-vis des sanctions.
Pour financer aussi sa guerre, effectivement, il faut le rappeler, l'or, ça sert aussi à ça. Le rapport du World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, c'est vraiment une mine, si je puis dire. On peut voir notamment que les réserves de la Russie sont passées de 450 tonnes d'or en 2007 à plus de 2300 tonnes d'or fin 2021. Vous mesurez, et on peut estimer que depuis, ça a sans doute encore progressé.
Oui, parce qu'elle ne déclare pas systématiquement ses ajouts d'or dans ses réserves. Donc on ne sait pas, il y a beaucoup d'achats d'or qui passent sous les radars, qui sont comptabilisés, mais on ne sait pas vraiment quelle est l'institution qui l'a faite. Souvent, c'est la Russie.
Toucher aux réserves en or de la Banque de France, c'était une des solutions préconisées par Nicolas Sarkozy à son arrivée à Bercy pour obtenir des revenus supplémentaires. La décision a été prise aujourd'hui. 5 à 600 tonnes seront écoulées sur 5 ans.
En 2004, lorsque l'once d'or valait moins de 500 $, la Banque de France avait vendu une petite partie de ses réserves à la demande de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie. 20 ans plus tard, la France est-elle gagnée aussi par la fièvre acheteuse de ce métal jaune ?
Non, c'est plutôt stable. Ça, depuis pas mal d'années, ça reste à 2436 tonnes.
Étienne, on avait parlé ensemble de la flambée du cacao il y a quelques semaines, avec l'intérêt notamment de fonds spéculatifs pour cette matière première. Est-ce que ces hedge funds jouent aussi un rôle dans la hausse actuelle de l'or ?
Le marché de l'or et le marché du cacao sont vraiment incomparables. Il y en a un qui est plutôt petit et l'autre qui est vraiment énorme. Le marché de l'or, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards qui sont échangés chaque année. Donc, des hedge funds à eux seuls ne peuvent pas faire décaler les prix de l'or, ils en profitent, ils prennent des positions, mais à eux seuls ne peuvent pas amplifier les mouvements de marché comme ils peuvent le faire sur le marché du cacao.
Surtout que les chiffres du Conseil mondial de l'or montrent une certaine désaffection de la demande en matière d'investissement. Elle a baissé de 15% l'an dernier avec une pression à la vente importante sur les ETF, les fonds indiciels cotés, investi dans l'once. Alors ça, c'était pour la demande. Étienne, en face, comment se porte l'offre d'or ?
C'est justement un autre facteur de hausse des prix, parce que l'or, on l'exploite depuis des millénaires. Donc les gisements d'or commencent un peu à s'épuiser et on peine à faire des nouvelles découvertes. En réalité, on ne découvre pas de gisements majeurs d'or. Donc l'offre peine à suivre la hausse de la demande. Et donc quand il y a toujours ce décalage-là, les prix ont tendance à monter.
Ouais, c'est pas comme le pétrole, hein. Finalement, on peut pas décider d'augmenter la production ou de la baisser si la demande est là. Hein.
Non.
C'est plus compliqué. Hein. On parlait des mines d'or. Comment se porte le secteur des mines d'or en bourse ? Est-ce qu'il profite lui aussi de l'envolée de l'once d'or ?
Les valeurs aurifères sont de toute évidence liées au cours de l'or. Normalement, quand les cours de l'or montent, le cours de bourse des compagnies minières spécialisées dans l'or monte aussi. Et même historiquement, on considérait les valeurs aurifères comme de l'or avec un effet de levier, puisqu'elles avaient tendance à amplifier la hausse des cours de l'or ou la baisse inversement. Mais ce phénomène-là est beaucoup moins vrai ces derniers temps. En 2023, l'or a fait grosso modo plus 10%, tandis que les compagnies minières ont fait que plus 5, plus 6. Alors, c'est pas inintéressant, mais c'est un changement profond par rapport à ce qu'on avait observé historiquement. Pourquoi ? La première raison, c'est l'augmentation des coûts de production. Ils sont passés de 1 000 $ avant le Covid à 1 200 $ parce que le coût de la main-d'œuvre augmente, le coût énergétique aussi, et tout ça a rogné un peu la marge de ces acteurs. Ensuite, la valorisation boursière d'une minière spécialisée dans l'or, ça dépend de la valeur de ses actifs, c'est-à-dire de ses mines, et du contenu de l'or qui reste à sortir de terre et à vendre. Et comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de découverte majeure. Donc la valeur des actifs de ces mines d'or, année après année, diminue. Et donc ça a un effet aussi sur la valorisation boursière de ces compagnies. Puis enfin, l'extraction d'or, c'est extrêmement polluant, parce que pour avoir un gramme d'or, il faut remuer des tonnes et des tonnes de terre, les traiter avec parfois des métaux lourds. C'est un processus extrêmement complexe, polluant, émissif en CO2, avec des risques de pollution énormes. Certains gisements sont dans des juridictions hyper instables, notamment en Afrique centrale. Donc, certains investisseurs, notamment dans les pays occidentaux, se disent est-ce que je vais vraiment investir dans des mines d'or et prendre des risques pareils, d'autant que l'or n'a pas une application majeure dans la transition énergétique. Donc c'est un intérêt économique, parce que l'or est un des facteurs de stabilité monétaire et un apport économique, mais pas dans le cadre de la transition. Donc beaucoup d'investisseurs se disent préfèrent rester à l'écart de ce genre de compagnie.
Étienne, on va terminer cet entretien avec la question que tout le monde se pose. La hausse va-t-elle se poursuivre ?
Très difficile à dire, mais on peut quand même constater que les planète semble alignée pour les cours de l'or. Il y a des tensions géopolitiques, il y a une perspective des baisses des taux, puisque même si elle a été repoussée, elle interviendra quand même, sans doute peut-être en 2025 seulement, mais elle interviendra. Il y a une demande chinoise qui est très forte, il y a des achats de banques centrales qui sont toujours aussi dynamiques, et au premier trimestre, les banques centrales n'ont jamais autant acheté d'or pour un premier trimestre, et une offre qui n'est pas exceptionnelle et qui ne suit pas le rythme de la hausse de la demande. Donc on peut raisonnablement penser que les cours de l'or vont continuer de progresser. Est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an? Voilà, tout ça est très complexe et c'est un art acrobatique et très dangereux. Globalement, le consensus de marché parie sur une hausse des cours de l'or, et notamment Bank of America qui pense que l'or va atteindre 3 000 $ dans les 12 mois qui viennent.
Merci Étienne Goetz du service Marché des Échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et reportages sur leséchos.fr. Je vous donne aussi rendez-vous dans la story très prochainement avec Christelle Tachdian qui est allée faire un tour dans les officines de revente et d'achat d'or qui ont beaucoup de travail en ce moment. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.